Donc le sujet traité ce soir sera. Oui, je t'écoute.
Aujourd'hui, j'ai vu le saut de la vérité et il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est comment se fait que Dieu il a fait en sorte que la personne, celui qui a fait le souverain, avant qu'il fasse le souverain, il doit mourir en haut et il est passé au centre de l'épreuve pour redescendre en bas, alors qu'il y a des personnes qui font après la même chose, qui n'ont pas besoin de ça et qui font le souverain directement.
Ouais. Donc pour expliquer ta question un peu mieux, donc ce shiur sera dédié à l'élévation de l'âme de Sarah Bat Ruhama Zichrona Livracha. Donc la question de Binyamin, qui a vu le cours le saut de la vérité, donc cette personne qui témoigne qu'elle est partie elle a une mort clinique, elle a vu là-bas le jugement, et les démons créés par ses péchés, les anges. C'est une histoire assez poignante, et qui revient ici, qui a fait une tchouva totale. La question est, pourquoi lui, il fait tchouva par ça, et beaucoup d'autres, la majorité, on va dire, font pas tchouva par ça, ils font tchouva tout à fait, sans apparition mystique et de ce type-là. Réponse. Comme j'expliquais souvent, ce monde-là, en hébreu, est appelé Olam. Olam vient de la racine he'elem, ou ne'elam, qui signifie caché. Le but de ce monde, c'est que Dieu se cache. Pourquoi ? Pour nous laisser à nous agir. Comme j'ai expliqué des milliers de fois, mais je vais le réexpliquer maintenant, Dieu veut me donner le plus grand cadeau qu'il puisse être, c'est quoi ? C'est lui-même. La perfection absolue, c'est Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il est ? Personne ne sait ce qu'il est. Mais il dévoile un peu de ce qu'il veut dévoiler de lui-même, comment ? Par son nom. Comme mon visage me dévoile à moi, et tout le monde comprend que quand vous voyez ce que vous voyez, vous ne me voyez pas, et moi non plus je ne vois pas, d'accord ? Je vois qu'un morceau de steak, avec deux trous, de la gélatine dedans, un peu d'ivoire, des poils, d'accord ? Voilà. Du steak. Je ne suis pas du steak. Je ne suis pas du steak. Je suis moi. Et comme c'est marqué, après le péché originel, Dieu a habillé l'homme et sa femme d'habits de peau. Les jeunes gens croient qu'il était à moitié nu, il était tout nu, d'accord, l'archouma, il avait honte, il était tout nu. Alors Dieu l'a fait, un habit de peau, il a pris un ours, il l'a égorgé, il a fait comme ça une toque, comme les hommes du Cro-Magnon, d'accord. Et il était à moitié nu, un peu poilu, avec son... sa massue, là, dans la main. C'est pas ça. Le premier homme était un être de lumière. Et quand on dit lumière, c'est pas lumière, c'est une réalité spirituelle très haute, qu'on traduit par le mot lumière, c'est pas la lumière. Bien que Chazal dise que le talon du premier homme était plus lumineux que le soleil, et que le soleil par rapport au talon du premier homme était égal, était sombre, d'accord, c'est encore une fois de façon imagée. Il était à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. C'est une réalité spirituelle à l'image de Dieu. C'est phénoménal. Les anges, sachez qu'à la source, les anges sont beaucoup, beaucoup plus bas que la racine de l'être humain. Pardon ?
Dans les mondes inférieurs.
Il y a quatre mondes. Atzilut, le plus haut. Atzilut, c'est en fait, c'est divin. D'accord ? Et on dit que la tête du premier homme était dans l'Atzilut. C'est une notion kabbalistique que je ne connais pas très bien. Je peux dire que la tête était là. Bon, en tout cas. Après, il y a Bria, les anges sont dans Bria. Après, il y a Yetzirah, Assia, nous, on est dans Assia. Nous, ils sont en Assia, mais notre source, elle est dans Atzilut. Et comme c'est marqué dans la bracha qu'a fait Bilam Arasha, Bilam le prophète, il a fait une bénédiction. Il voulait maudire le peuple d'Israël, et à la place d'une bénédiction, il y a une bénédiction qui est sortie. C'est marqué là-bas, Ka'et, un jour viendra, Yéhamer, on dira, Yaakov ou l'Israël, à Yaakov à Israël, Ma Pa'al El. Qu'est-ce que Dieu fait ? Qui va demander ? Les Juifs, un jour, seront à un niveau tellement haut qu'on leur demandait, dis-moi, toi, tu es là-haut, tu vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu, là? Où il en est? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qui va demander? Les êtres humains? Les anges. Les anges, pour très bientôt, messieurs, préparez-vous psychologiquement, grâce à Hachem. À l'époque messianique, tu rigoles, la lumière qu'il y aura, elle va être terrible, 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 terrible. À un niveau où tu entends que les anges te demandent, dis-moi, toi, qui vois là-haut. Il faut être capable de voir là-haut. Pas aller en boîte et après voir Dieu, ça marche pas ensemble, ça fait un court-circuit à 10 000 volts, au moins, au moins, au moins. Alors quand je parle de lumière, c'est ça. Donc lumière, c'est une réalité, c'est un terme qui définit une réalité qui n'est pas une lumière. La réalité, c'est la lumière, c'est les photons, d'accord. On parle de...
Ça se sent dans ce monde physique.
Oui, bien sûr, ça se sent.
Ça se traduit par quoi ?
Des fois, ça se traduit par une chose qui est intraduisible. Comme le goût de la tomate, quelqu'un qui n'a jamais goûté une tomate, d'accord ? Le goût des fraises, quelqu'un qui n'a jamais goûté une fraise. C'est intraduisible, d'accord ? Mais quand on est branché avec la divinité, on sent ça de façon plus ou moins puissante, tout dépend qui, quoi, comment. On appelle ça en fait Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint. Les gens croient que Ruach HaKodesh, c'est voir, avoir l'esprit de. Que tu vois tout, d'accord ? Tu as un rentgen dans les yeux, tu as comment on appelle ça en français, un rentgen, un rayon X dans les yeux. Ça, c'est le niveau très haut, qui te permet, tu es tellement branché à la divinité, tu es tellement pas dans le corps, que vraiment tu vois avec ton âme, donc tu vois tout. Pardon ? Il profite à un niveau encore plus haut. Que Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est ce qui reste aujourd'hui. Il n'y a pas de prophétie aujourd'hui. Ruach HaKodesh, c'est un niveau que tu as un esprit saint. Donc, c'est marqué dans les livres, c'est pas forcément que tu vois les choses. C'est marqué, par exemple, quelqu'un, il y a une mitzvah de Pidyon HaBen. D'accord, Pidyon HaBen, si quelqu'un, il a un enfant, un aîné, qui, c'est l'aîné de la femme. C'est la première fois qu'il est sorti, qu'il a fendu la matrice de sa mère. C'est là déjà une fausse couche auparavant où elle a accouché en césarienne. Alors c'est pas valable, mais c'est vraiment la première fois qu'elle a accouché comme il se doit. À l'âge de 30 jours, il faut rajouter le premier-né. C'est marqué que c'est une mitzvah qui donne Ruach HaKodesh. Bon, moi je l'ai fait à mon fils, j'ai pas Ruach HaKodesh. Mon fils l'a fait à son fils, il n'a pas Ruach HaKodesh non plus. Beaucoup de gens le font. C'est de quoi Ruach HaKodesh? Ça veut dire, ça t'amène sur toi un esprit de sainteté. T'es plus high, plus haut. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sensation de sainteté. Maintenant, on peut facilement la y goûter, par exemple, Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui, Shabbat, sentent quelque chose de spécial. Est-ce que c'est parce qu'on mange différemment, on a mis des nappes blanches, et il y a des bougies allumées? Il y en a qui diront que c'est tout. Puis il y en a qui diront non, il y a un truc que je sens qui est supplémentaire. Et je dirais, Yerushalayim, c'est encore plus tangible. Et dans les quartiers orthodoxes, c'est encore plus tangible. Si t'as fait un mikvé auparavant, c'est encore plus tangible. Si t'as fait tchouva vendredi, bien, si tu sens rien, t'es pas juif, d'accord? Après tout ce que j'ai dit, t'as fait tchouva, t'étais au mikvé, t'as fait shalem ikrachat targum, t'as prié comme il faut, et tu sens rien, c'est un jour normal, faut vérifier si la source est normale, d'accord? C'est pas sans vouloir remettre en question la judicité de qui que ce soit. Vous avez quand même senti des fois un peu Shabbat. Un peu.
C'est quoi, je sais pas, il faut le définir.
Non, c'est indéfinissable, voilà. C'est un kiff. Mais le kiff, il est où? Dans ce que tu manges? Ah, c'est bon.
Tout,
ça va, c'est un kiff. Tout, mais est-ce que tu restes maintenant comme ça? Normalement, pas tout le monde, hein, on sent quelque chose. Alors, bien mine, tu me dis, on sent un kiff. Alors, moi, ma question, elle est comme ça. Je mange un bon repas, on est en famille, on chante, c'est sympa. Bon, ça, c'est un kiff. Mais si tu te mets tout seul maintenant dans un coin, Shabbat, tu sens quelque chose? Non, pas des frissons, pas des frissons. Non, voilà, un bien-être. Tu restes maintenant, tu marches dans le couloir. Tu fais rien de spécial différent qu'un jour de chol. C'est pas la table qui a fait ça, mais en marchant dans le couloir maintenant, ou marchant dehors, tu sens une ambiance plus euphorique, plus high. Hein? D'où ça vient? D'où ça vient? Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Ruach HaShabbat. Shabbat, c'est Neshama et Tera. C'est Neshama. Ce sont des sensations dans la Neshama. Ça existe. C'est dur de vous faire vivre. Est-ce que je peux essayer de vous faire vivre un peu? Pas de la Kedusha, mais au moins de la Neshama. La Kedusha, la sainteté, c'est une vibration très puissante de la Neshama, qui fait que je le sens très fort, même dans mon Nefesh. Neshama, c'est le plus haut, Nefesh, c'est le plus bas. La Kedusha, la Neshama, quand c'est très fort, je le sens. Mais je peux te montrer que tu as une Neshama, je peux essayer de te mettre en relief la Neshama. On va essayer. Je te dis... Eliran, c'est ça? Ça te dérange pas que... Oh. Écoute, voilà. Admettons, mais vraiment, il n'y a pas d'Olam Haba, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de Sahar, il n'y a pas de punition, voilà. Mais, si tu La Torah, ça vient de Dieu, et c'est Emet. C'est Emet. Maintenant, vu qu'il n'y a aucune punition, aucune récompense, je dis, écoute, dégage. Bah, Tahiti. Les Vahiné. Les ukulélé, d'accord. Vas-y, dégage, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Chachrit, tôt le matin, il y en a qui se plaignent. Il y en a qui, après, Stiblach, d'accord, etc. Voilà, exactement. Et bientôt le déjeuner aussi. Trois prières par jour. Tout ce qui est bon, c'est interdit. Shabbat, on ne peut rien faire, comme tu dis. Les femmes, on ne peut pas toucher. La histoire. Faisons un exercice. Hein? Sondage dans la salle. Moi, je vous dis, voilà. Tiens, voilà, écoutez. Vous pouvez être, soyez, vous êtes goy. Tu peux être goy. Tu plaques tout. Mais tout. Plus rien. Et je te garantis, il n'y a ni enfer ni paradis.
Tu peux
revenir
les juifs.
Non, on va dire que c'est définitif. Hein? Hein? Non, admettons. Hypothèse hypothétique. Qui reste juif? C'est un kiff, toi, tu dis. T'as raison. Mais t'as raison, c'est un kiff. T'as raison, c'est un kiff. Absolument. Mais il faut pas dire que c'est pas un kiff. Il faut pas mentir. J'aime pas aller sur la plage et surfer et les filles, pourquoi pas. On est des êtres humains normaux, d'accord. Bien sûr, c'est un kiff. Alors pourquoi, si effectivement ça serait comme ça, qu'il n'y a aucune sanction, aucune récompense, pourquoi tu n'irais pas le faire? Toi, tu dis que tu irais le faire. Ok. Qui ici n'irait pas le faire? Alors, Jaïs, pourquoi?
C'est quand même la Torah, même s'il y avait la récompense, il n'y a rien à faire. C'est quand même un guide qui permet de vivre, et c'est une clé du bonheur, quoi qu'il arrive. Donc, si on ne suit pas la Torah, on sera malheureux sur cette terre, qu'il y a une récompense qu'on va faire.
Je te garantis bonheur.
Même si je suis dans la débauche.
Oh ouais, débauche, la kiffé jusqu'à 120 ans, après tu crèves. Après tu crèves. Non, je te garantis, admettons, on est tout en hypothèse.
Comment je suis convaincu du contraire, c'est pas vrai, j'arrive même pas à aller dans la situation et à s'imaginer que ça puisse pas être.
Imagine.
J'arrive pas.
Toi, mon vieux, jamais tu le feras. Qu'est-ce qu'on parie? Moi, je te prouve maintenant que non. Attends. J'ai pas dit qu'il n'y a pas Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de récompense, pas de mérite. Par contre, hein?
Il n'y a pas de récompense de vers le futur, mais dans ce monde-là, c'est un Dieu.
Non plus. Ni ça, ni voilà. Tu gagnes rien. Tu n'as rien à gagner. Simplement, est-ce que tu fais partie de Am Israël, être le peuple élu de Dieu, t'es branché avec Dieu, t'es dans la vérité, ou bien, t'es goy, t'as rien à voir.
Il n'y a aucune différence. Tu deviens goy, t'apprends la Torah.
Hein?
Je deviens goy, j'apprends la Torah.
Ouais, mais t'es pas branché avec Dieu. Le branchement d'un goy, il est, mais il est beaucoup plus faible.
Il n'y a aucune chance.
Quel intérêt est-ce à brancher avec Dieu?
Quelle récompense? Ok, quand je parle de récompense, je parle maintenant de Olam Haba, le paradis, de la Parnassa. Je parle pas de récompense de le branchement lui-même.
Est-ce qu'il y a une justice dans ce monde? Si je tue, est-ce que je suis puni ou je peux tuer?
Tu fais ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui sont amoureuses du peuple juif? Oui, tout le monde.
Mais comme vous avez dit, ça
toi, pas du tout, rien à faire.
Comme vous avez dit qu'il n'y a pas de récompense.
Et lui, il crée tout de suite, oui, c'est très intéressant.
Quand vous dites qu'il n'y a pas de récompense à la fin, c'est comme si tout ce que vous faites ici, c'est pour. C'est comme par exemple un coureur qui s'entraîne comme un fou pendant 6 mois, à la fin de la compétition, elle est annulée. C'est comme s'il n'a rien fait. Et que
l'entraînement,
ça sert à rien.
Pas du tout.
Parce que l'entraînement,
je suis d'accord avec toi.
Attends,
tu m'as dit que Joseph Raim qui est très très précieux à mes yeux. Quand je posais la question maintenant, qui aime au peuple juif, tu as dit tout de suite, tu as dit oui, mais un oui passionné. Ça vient d'où ça? Et t'es prêt à quitter tout ça?
La Torah, oui.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc t'entends. On va prendre le cas d'Ephraïm, messieurs. Chacun après va juger où il est, d'accord? C'est-à-dire que, bien qu'on lui promette tous les kiffs de ce monde, gratuits, sans sanction, ils peuvent s'éclater, mais s'il doit choisir entre ça et quitter, il est amoureux du peuple juif. Tu vois bien ce que tu ferais, peut-être tu choisirais quand même aussi de partir à Tahiti. Mais quelque part, il y a quelque chose qui te retient, qui te dit quoi? Quoi? L'amour du peuple juif. Mais c'est, je ne comprends pas, tu n'as rien à gagner là-dedans. Tu n'as rien à gagner. Amour, le vrai amour, c'est pas quand tu as à gagner. Moi, je suis amoureux de mon père, d'accord? Ma mère, j'aime beaucoup mes parents, j'ai rien à gagner là-dedans. Je suis amoureux de ma femme, un vrai amour, d'accord? Ou de mes enfants, j'ai rien à gagner là-dedans. C'est comme ça. Quand quelqu'un est proche de sa neshama juive, il a un amour indéfinissable, irrationnel, du peuple juif. Les goyim qui viennent se convertir, quand on leur pose la question, eh ben, très souvent ils disent, je sais pas, pourquoi tu te convertir? Je sens que je veux faire partie du peuple juif. Ça, ça veut dire qu'il a une étincelle de neshama. Il n'est pas une neshama, il a une étincelle. Après, quand il trempe au mikvé, il reçoit toute la neshama. Il a une petite étincelle. C'est quelque chose de anormal, qui n'est pas rationnel. Parce qu'au niveau du nefesh, c'est-à-dire au niveau d'une pulsion physique, bah, il faut pas. D'accord? Il faut pas, parce que ça ne se fait pas, c'est des mots, machin. Mais si on dit, tu peux! Il n'y a aucune sanction. Vas-y, éclate-toi. Le nefesh, il s'éclate, il devient fou, d'accord? Alors pourquoi pas? On lui dit, ok, nefesh, tu vas t'éclater, mais tu perds neshama. Tu perds neshama. Am Israël, tu n'as plus aucun contact avec Am Israël. T'es goy. Tu n'as plus au contact avec la Neshama d'Am Israël. Tu n'as rien à voir avec notre histoire. Tu es out. Tu t'appelles Christian de la Croix et tu habites en Bretagne intérieure. D'accord? Avec Marion. Ça te dit, toi?
Non, c'est pas ça. Il a toute l'année.
Et plus de peuple juif? Rien du tout. Ok, ça va. Ça va. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Je veux que c'est une grande. T'aurais pas un petit regret de ne plus avoir de peuple juif du tout?
La seule raison, c'est parce qu'il y a une récompense et qu'on est dans le même groupe.
Ok, mais ça va.
Il
n'y
a plus de récompense pour rien. Ça va.
Il est rationnel.
Regardez, Maïmonide, il dit comme ça. Maïmonide, il dit. À la fin de l'Hotchouva, si vous arrivez peut-être avec Rav Cohen, dans le Moussard, d'accord, à la fin, voilà, à la fin là-bas, il y a un passage extraordinaire, d'accord, c'est le dernier péril de l'Hotchouva. Il dit, c'est pas la meilleure chose de servir Dieu à cause des brachot, des bénédictions que Dieu a promis dans la Torah pour ceux qui feraient sa Torah, à cause des malédictions qu'il a promis à ceux qui ne feraient pas sa Torah. C'est pas la meilleure façon. Il faut servir Dieu, pas à cause des brachot, pas à cause de l'Olam Abba, pas à cause de l'enfer, pas à cause des malédictions. Et parce que c'est la vérité. Emet. Et ça, c'est... Après, il dit, c'est un secret qu'on dévoile lentement aux gens. Très peu. Et après, s'ils comprennent un peu plus. C'est quoi ce secret? Pourquoi c'est tellement un secret? C'est quoi un secret? C'est un secret militaire. C'est-à-dire que le secret, c'est toujours quand il y a une notion de secret dans le temps, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre. Si tu n'es pas au niveau, ça ne rentre pas. Ça veut dire que, ici, dans la salle, on a vu, il y a... Un enfant, tu peux pas lui dire maintenant, sers Dieu, parce que c'est la vérité. Il aura des yeux écarqués de moi je sers Dieu parce qu'à la fin j'aurai une sucette. Après, parce qu'il aura de l'argent. Après, il aura une bonne note à la fin de l'année et son père sera content de lui. Après, parce qu'il aura un bonheur sur terre. Après, pour Olam Haba. Et puis après, un degré supplémentaire qui vient lentement, très lentement. Il faut travailler là-dessus. Des fois, on l'a un peu inné, des fois, et après, il faut le développer, des fois, on l'a pas du tout, il faut commencer à le développer à la source. On le fait tout simplement par amour. Par amour de quoi? Parce que Dieu, je connais pas. Amour de Dieu. Il est où? Qui sait d'où on parle? On peut traduire le mot amour de Dieu par amour de la vérité. Amour du peuple juif, ça devient la même chose. Amour de la vérité, c'est la vérité. Il y a des gens, quand on dit le mot, soit authentique, vrai, ça a un écho chez eux, ça les allume. La vérité, moi, je cherche la vérité. Je veux pas rater ma vie, je veux être dans le vrai. Il y en a d'autres qui sont allumés par l'amour du peuple juif. Je suis juif, quoi qu'il y en ait, je suis juif jusqu'à la moelle de mes os, c'est mon peuple, quoi qu'il y ait. Ça c'est Neshama. Maintenant, le Nefesh, il ne comprend pas ce langage. Les enfants, ils n'ont que le Nefesh. Lui, il comprend, kiffé, mais c'est tout. Maintenant, lentement, on reçoit la Neshama, elle rentre. Elle, le grand supplément de Neshama vient à l'âge de 20 ans. Donc ça va, t'es encore dans les... D'accord ? Je 20 ans, c'est bien déjeuner, la nuit des 20 ans. Une grande chouva, comme on reçoit une grande Neshama. Après, ouais. Après, on devient un grand amoureux de Dieu. Ouais, absolument. Avec chaque anniversaire, on reçoit un supplément de Neshama. En parenthèse, ceux qui viennent...
À 13 ans,
ouais, Rouach à 13 ans. Quand on n'a jamais mis les pieds en Israël, on a que Nefesh. Bon, encore, quand je parle de Nefesh Roi Neshama, c'est plusieurs niveaux. On peut avoir... Il y a plusieurs Nefesh Roi. Il y a Nefesh Roi Neshama. Dans Nefesh, il y a Nefesh Roi Neshama. Donc il y a Nefesh de Nefesh, Nefesh de Rouach. Il y a Nefesh de Nefesh, Rouach de Nefesh, Neshama de Nefesh. Après, t'as Nefesh de Rouach, Rouach de Rouach, Neshama de Rouach. Vous me suivez ou pas? T'as trois degrés, mais chaque degré, il est aussi composé de trois, qui chacun composé de trois jusqu'à l'infini. Donc, quand on dit que quelqu'un reçoit la Neshama, hein, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, de celle-là, de celle-là, c'est pas clair où ça se trouve. Quand quelqu'un n'a jamais mis les pieds en Israël, il a que Nefesh. Quand il va en Israël, il reçoit Rouach. Très souvent, ils vont au côté, là, ils ont une crise de larmes. Pourquoi? Pourquoi? Un mur. Parce qu'ils reçoivent le Rouach. Boum. Quand ils s'installent en Israël pour toujours, Neshama. Celui qui étudie, c'est marqué, celui qui n'étudie pas la Torah avec Tfilin un peu après la prière, ne peut pas recevoir Nefesh ou Neshama. Il reste bloqué Nefesh. Il faut un petit peu pour qu'on fait une halakha après. C'est bien garder le Tfilin. Quand on fait la halakha, vous gardez le Tfilin encore un peu. C'est pas si grave. Le petit déjeuner attendra. À 9h10, les cours commenceront. Mais le petit déjeuner, on peut le raccourcir. Donc ce sont tous des prénoms. Ce sont des Shabbat, on reçoit Nefesh ou Neshama. Et d'ailleurs, c'est bien de penser quand on reçoit Nefesh, quand on reçoit Neshama, parce que sinon, on ne le reçoit pas. On ne reçoit pas Nefesh Roi Neshama si on n'y pense pas. On reçoit Nefesh de Shabbat quand on fait Boikala, Boikala, troisième fois, Boikala, Shabbat Malkedal, il faut pas que je reçois Nefesh de Shabbat. Après, on dit Baruchut Hashem Mvorach. C'est la seule fois où on est debout, nous, pour un Kaddish, les Saradim, c'est au Arvit de Shabbat. Pourquoi? Parce que quand on dit le Baruchut, on reçoit Rouar, tu parles, c'est assis. Donc, c'est le Rouar, c'est une partie divine. Tu te mets debout, tac, ça rentre, quand on dit Baruchut. Neshama, c'est quand on dit Ufros Alenu Sukat Shlomecha. À la fin, la dernière bracha de Kriyat Shema de Arvit, Ufros Alenu Sukat Shlomecha, tac, tu te lèves à ce moment-là, tout le monde se lève, Ufros, on reçoit Neshama. C'est les choses, si tu ne fais pas ça, tu ne reçois pas, tu ne reçois pas, tu ne ressens pas. Il faut le recevoir pour le ressentir. Ce sont des suppléments de spiritualité qui font qu'on ressent ces choses-là. On les ressent. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Intraduisible. Mais ça existe. Quand j'ai parlé maintenant. J'ai parlé de deux choses ici puissantes. J'ai parlé de la vérité, soit authentique. Il y a des gens chez qui j'ai vu dans le regard, ça a un écho. Quand je dis je suis jusqu'à la moelle des os, d'accord, je suis juste coulo complètement, il y en a qui étaient touchés par ce que j'ai dit. Parce que moi-même je vibrais, donc quand on vibre, on fait vibrer l'autre, on fait vibrer sa Neshama. Pourquoi ils ont vibré? Ça c'est Neshama. Donc je t'ai mis en relief. T'as vibré toi un de ces trucs-là ou pas du tout? Ni ça, ni vérité, ça te touche? Ok, ça te touche, mais ça te touche, ça te touche. Pourquoi ça te touche? Qu'est-ce que t'en as à faire de la vérité? Ma erpat lecha. Il y a des gens qui vont dire, mais j'en ai rien à faire de la vérité. Tu as beaucoup de gentils, écoute, c'est très sympa, vérité, ouais. Moi, laisse-moi, je veux m'éclater. Toi, tu dis, ça te touche un peu, pourquoi? D'où ça provient? Ok, bah, tu as déjà un chemin. Alors, comment se travailler là-dessus maintenant? Comment travailler là-dessus? Vérité, je suis là pour la vérité. Alors c'est qui la vérité? Comment c'est la vérité? Où est la vérité? Quand tu y penses, ça commence à... C'est marqué que c'est comme des charbons. Quand tu les laisses sans rien, alors ils s'éteignent. Tu souffles dessus, ça devient un feu incandescent. Plus on parle de ça, plus ça réveille en nous ça. C'est clair. Alors il y a deux moyens faciles de sortir la Neshama, c'est la vérité et l'amour d'Israël. Sentir, alors maintenant, plus difficile, étude de Torah assidue, c'est génial, tu t'éclates. Tfila, Shabbat. Ces choses-là, on sent des choses, on peut sentir une grande douche, bien sûr qu'on peut sentir. Oui, le sujet qu'on devait parler, c'était au début. Qu'est-ce qu'il s'est posé? Sous de la vérité, ouais, bon. Prochaine fois, on a dévié.
On peut définir ce que c'est en fait la vérité, parce que j'ai du mal à c'est...
Ouais.
Qu'est-ce qu'on appelle la vérité?
Ouais. C'est très simple, la vérité. Qu'est-ce que c'est? Mouchoir. Je te dis, c'est pas un mouchoir. C'est une poule. C'est vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que dans la réalité, c'est pas une poule, c'est un mouchoir. Vérité égale réel. Mensonge égale pas réel. Si je suis Rothschild, c'est un mensonge. Maintenant, dans le monde, il y a le mensonge. Tu parles du mensonge, il y a le mensonge très fort. Pourquoi il est fort? Parce qu'on lui accorde de la réalité. Un mensonge, c'est quand il est fort? Quand les gens y croient. D'accord? Si je te dis maintenant, hier, j'étais voir Rav Avraham Kanevski, et il m'a dit, t'es un élève dans l'échiva très bien, Jaïf, par exemple, d'accord? Et tu me crois, c'est un mensonge, tu me crois, tu donnes une réalité à une chose qui n'a pas de réalité. Le mensonge, ça n'existe pas, je n'ai vu ni Ibrahim, ni rien du tout, d'accord? Mais tu y crois, tu donnes une réalité à une chose qui n'a pas de réalité. Notre problème à nous, c'est que nous, on donne une réalité à une chose qui n'a pas de réalité. Tous les plaisirs, tout ce qui est nefesh, ça disparaît. Ce n'est pas une réalité qui va durer, elle est très très courte. Tous les plaisirs de ce monde, ils sont très courts. Et après, il n'y a plus rien. Plus rien! Il y a un exemple que j'ai raconté plusieurs fois, on va finir avec ça. Et peut-être vous comprendrez que c'est aussi Neshama. Et c'est quoi la réalité? J'ai raconté plusieurs fois, je le répète encore une fois. C'est le Rav Jacobson qui raconte cela. C'est un grand éducateur en Israël. Il raconte qu'un jour, il était l'après-midi dans son appartement. Il habite dans un complexe de bâtiments, puis au milieu, il y a un petit jardin. Et il voit qu'il y a des groupes de filles qui s'amusent. Puis tout d'un coup, il voit une fille qui sort, qui a 7-8 ans, qui a un problème psychomoteur, elle est un peu anormale. Et il voit qu'elle veut, il n'entend pas, il est derrière la vitre, comme ça, mais il voit qu'elle va, elle discute un peu avec les petites filles, 30 secondes, minute, hop, elle voit qu'elle quitte. Elle a dû vouloir jouer avec eux, et les filles ont dit, tu sais pas attraper une balle, tu sais rien faire, dégage, d'accord. Bon, elle va deuxième groupe, elle parle un peu tout ça, de nouveau, tac, elle voit qu'elle est expulsée. Elle va troisième groupe, une minute, tac, expulsée. Elle va dans son coin, se met à pleurer. Il regarde par la fenêtre, il voit la maison, il sait où habitent les parents, il voit la mère en train d'essuyer une larme. Donc sa fille, elle a déjà un problème, elle est anormale. Deuxièmement, doublé par un problème social, d'insertion sociale. Qu'est-ce que le rabbi appelle sa fille qui a le même âge? Il appelle, viens ma fille, tu connais la petite fille? Oui, bien sûr, je la connais. Va jouer avec elle. Elle ne veut pas jouer avec elle. On lance la balle, il faut attendre 30 minutes pour qu'elle aille chercher. Impossible. Ma fille, je ne te dis pas de jouer avec elle pour que toi tu t'amuses. Va, pour elle. Fais une mitzvah, elle est miskena, elle pleure, regarde, sa mère elle pleure maintenant, tu vas la rendre joyeux. Bon, il la convainc, elle y va. Pas une demi-heure, elle joue avec elle. La petite fille anormale, tellement heureuse, entre à la maison, maman, maman, j'ai une nouvelle amie, on s'entend à merveille, la mère se remet à pleurer cette fois, de joie, Baruch HaShem. Et comme ça, tous les jours, la petite fille du Rav va jouer une demi-heure avec la petite fille du Rav, la petite fille handicapée. Quelques mois passent, et un beau jour, on est le soir de Shabbat, et la petite fille du Rav, elle adore la mousse au chocolat. Et voici qu'il y a le dessert, mousse au chocolat. Tu veux une coupe? Oui, tiens, prends. Alors, dit à sa fille, tu veux une deuxième coupe? Ouais, tiens, prends. Troisième, il la gave. Tout ce qu'elle ment, la mousse au chocolat, elle est... Bon. Elle va dormir. Le lendemain matin, Baruch HaShem, elle n'a pas eu d'indigestion. Et le Rav l'appelle. Viens, ma fille, dis-moi. La mousse au chocolat hier, c'était bon? Elle est délicieuse. Dis-moi, j'aimerais bien que tu me dises maintenant, ferme les yeux et sens. Est-ce que tu sens maintenant quelque chose? Pas le souvenir de la mousse au chocolat. Maintenant, quand tu penses à la mousse au chocolat, maintenant, est-ce que tu sens quelque chose de la mousse au chocolat? Non, je ne sens rien du tout. Quand c'est sur la langue, je sens. Là que c'est d'ici, je ne sens déjà plus rien. Je ne sens plus rien du tout. J'ai le souvenir, c'est très bon, mais là, je ne sens rien. Donc pense à la fille que tu aides tous les jours. Ferme les yeux et pense à elle. Est-ce que tu ressens quelque chose? Elle dit, oui, ça me fait, je sens quelque chose ici. Cette nuance entre Nefesh et Neshama. Quelqu'un qui est que Nefesh, il dira, aider, ça ne m'intéresse pas. Je ne ressens rien, c'est pas pour moi. C'est qu'il a une petite Neshama tout atrophiée. Il a un Nefesh énorme. Neshama, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Comment ça se fait qu'elle ressent ça? Il n'y a rien, elle n'a rien gagné, elle ne fait que donner. La Neshama, elle aime donner. Vrai égale quelque chose qui va durer. Le mouchoir, il est vrai, mais il est vrai combien de temps? Il tient maximum 10 ans. La table, elle est vraie. Combien de temps? Maximum 20 ans. Le bâtiment, il est vrai. Combien? 3 siècles maximum. Le monde! 1 million d'années, si tu veux, d'après les goïms, 6 000 ans pour nous. Mais tout disparaît. Au regard de l'infini, 1 milliard de milliards d'années, combien ça vaut? Tu prends l'infini, tu prends 1 milliard de milliards d'années. Combien ça vaut 1 milliard de milliards d'années par rapport à l'infini? Choum d'avoir, rien. Au lamazé, le nefesh, c'est rien. Parce que ça a eu et ça a disparu, il n'y a plus rien. C'est mort. La neshama, la vérité, c'est la seule chose qui est réelle, qui reste. La vérité, c'est ça. Pour répondre à la question, quoi la vérité? C'est ce qui reste. Ça, ça est. La seule chose qui est, c'est qui? C'est celui qui est. Yud Ke Vav Ke. Quand on fait de la Torah, quand on fait des mitzvot, on se branche avec ce qui est. C'est ça la vérité. Et les gens, je dois te l'expliquer maintenant, mais les gens ont ça en eux. Un amour de la vérité, un amour de Am Israël ou un amour de donner. C'est la même chose. Baruch Adonai, l'homme, amen.